Chapitre 24. Henrique. Vers ce temps, Alfred, le frère de Sinclair, vint avec son fils, garçon âgé de 12 ans, passer un jour ou deux à la maison du lac, dans la famille de son frère. L'aspect de ces jumeaux réunis avait à la fois quelque chose de beau et d'étrange. La nature, en les formant, s'était complue de tout point à créer, au lieu de ressemblance, de frappantes oppositions, et pourtant un lien mystérieux semblait resserrer leur amitié fraternelle. Bras dessus, bras dessous, ils erraient dans les allées du jardin, en haut, en bas, partout. Augustin, avec ses yeux bleus, ses cheveux d'or, ses formes souples et élégantes, ses traits animés, expressifs. Alfred, avec ses noirs cheveux, son profil romain, hautain, inflexible, ses membres fortement articulés et son ferme maintien. Sans cesse, ils s'attaquaient mutuellement sur leurs opinions, leurs habitudes, leurs actes, et n'en étaient pas moins absorbés dans la société l'un de l'autre, comme si, pour les unir, la contradiction eût joué entre eux le rôle que l'attraction remplit entre les pôles opposés de l'aimant. Henrique, le fils aîné d'Alfred, noble garçon aux yeux noirs, à la tournure de prince, rempli d'ardeur et de vivacité, avait à peine vu sa cousine Évangeline que déjà il était fasciné par la grâce toute céleste de l'enfant. Le poney favori d'Eva, doux comme elle, d'une blancheur de neige et d'une allure à la bercer mollement, venait d'être amené par Tom à l'arrière-véranda, tandis qu'un mulâtre d'environ 13 ans y conduisait le petit cheval noir arabe, importé depuis peu à grands frais pour Henrique. Fier comme un jeune garçon de sa nouvelle monture, Henrique s'avança, prit les rênes des mains du petit groom, regarda attentivement le cheval, et son front se rembrunit aussitôt. « Qu'est ceci, Dodo, petit chien de paresseux? Tu n'as pas étrié l'animal ce matin ?»« Si fait, maître, répondit le mulâtre avec soumission, c'est lui-même qui s'est encore sali. »« Tais-toi, drôle !» dit Henrique avec violence en levant sa cravache. « Comment oses-tu ouvrir la bouche ?» Le groom était un joli mulâtre aux yeux brillants, juste de la taille d'Henrique, et ses cheveux bouclés encadraient un front haut et fier. Le sang des blancs qui bouillait dans ses veines colora tout à coup sa joue et fit éclater son œil, comme il commençait vivement à dire « Maître Henrique !» Henrique lui cingla un coup de cravache à travers la face, le prit par le bras, le força à se mettre à genoux et le battit jusqu'à en être hors d'haleine. « Là, impudent chien, je t'apprendrai à riposter. Emmène ce cheval et qu'il soit nettoyé comme il faut. Je te remettrai à ta place, entends-tu ?»« Jeune maître, reprit Tom, je me doute de ce qu'il allait dire. Le cheval s'est roulé par terre au sortir de l'écurie. C'est si jeune, si fougueux. Voilà comment la bête s'est éclaboussée. Je l'ai vu penser au matin. Retiens ta langue, toi, jusqu'à ce qu'on te parle !» Et Henrique, tournant sur le talon, monta les degrés pour aller rejoindre Eva, déjà toute prête en habit de cheval. « Chère cousine, pardon si cet imbécile me force à vous faire attendre un moment. Asseyons-nous là, il ne saurait tarder. Mais qui a-t-il, cousine? Vous avez l'air tout fâchée. Comment pouvez-vous être si cruel, si méchant, avec ce pauvre Dodo ?» dit Eva. « Cruel? Méchant ?» reprit le jeune garçon, et sa surprise n'avait rien de joué. « Que voulez-vous dire, chère Eva ?»« Ne m'appelez pas chère Eva quand vous agissez ainsi. » « Mais, chère cousine, vous ne connaissez pas Dodo. Il n'y a pas deux façons de le conduire. Il n'en finit jamais d'excuses et de mensonges. Il faut le mater tout d'abord, ne pas lui laisser ouvrir la bouche. Papa n'agit pas autrement. » « L'oncle Tom a dit que c'était un simple accident, et il ne dit jamais que la vérité. »« C'est un prodige de vieux nègre, alors. Dodo dit autant de mensonges, lui, que de paroles. »« Il ment parce que vous l'effrayez? c'est lui enseigner le mensonge que le traiter comme vous faites. Si vous prenez si fort le parti de Dodo, Eva, vous allez me rendre jaloux. Vous l'avez frappé sans qu'il eût rien fait pour être battu. Un petit arriéré soldé, c'est pour toutes les fois qu'il mérite d'être rossé sans que je le batte. Quelques bons coups de fouet sont toujours de mise avec Dodo. C'est, je vous l'assure, un franc vaurien. Mais allons, puisque cela vous contrarie, je ne le frapperai plus jamais devant vous. Eva était loin d'être contente, mais elle sentit qu'elle essaierait en vain de se faire comprendre de son beau cousin. À l'instant reparut le petit mulâtre, amenant les deux chevaux. « À merveille, Dodo, cette fois tu t'en es tiré fort joliment, » dit son jeune maître d'un air gracieux. « Approche et tiens le poney de Miss Eva pendant que je l'aide à le monter. » Dodo se tint debout devant le cheval d'Eva. Mais sa figure était bouleversée et à ses yeux, on voyait assez qu'il avait pleuré. Henrique se piquait de galanterie et d'adresse. Et réunissant les rênes, il les lui présenta. Mais Eva se penchait du côté où se trouvait Dodo, et comme le petit mulâtre venait de lâcher la bride, elle lui dit « Vous êtes un bon garçon, Dodo, grand merci !» Dodo, ébahi, regarda cette douce figure, ses joues se colorèrent et les larmes lui vinrent aux yeux. « Ici, Dodo !» cria son maître d'un ton impérieux. Le mulâtre s'élança et tint le cheval arabe pendant que son maître le montait. « Voilà un picayune pour toi, Dodo. Va t'acheter du sucre candi, va !» Et Henrique s'éloigna au petit galop avec Eva. Dodo suivit longuement des yeux les deux enfants. De l'un, il avait reçu de l'argent. De l'autre, ce qui lui manquait le plus, ce dont il avait le plus ardent besoin, un mot de bonté affectueusement dit. Il n'y avait que peu de mois que Dodo était séparé de sa mère. Le père d'Henrique l'avait acheté dans un entrepôt d'esclaves à cause de sa jolie tête, afin d'en faire l'accompagnement assorti du joli poney. Maintenant, c'était l'affaire du jeune maître de le rompre et de le dompter. Les deux frères, se promenant d'un autre côté du jardin, avaient cependant vu appliquer la correction. Augustin rougit, mais dit seulement de son air d'insouciance sardonique. « C'est sans doute là ce qu'on appelle une éducation républicaine, Alfred. » Henrique est un petit démon, pour peu qu'on le stimule, » répondit négligemment Alfred. « Je suppose que tu considères ce genre d'exercice comme faisant partie de son instruction. » La voix d'Augustin devenait sèche. « Il en serait autrement que je ne pourrais l'empêcher. Henrique est une espèce d'ouragan. Depuis longtemps, sa mère et moi avons lâché les rênes. D'ailleurs, avec Dodo, il a affaire à un parfait lutin qui ne sent pas les coups. Le fouet ne l'incommode nullement. Serait-ce là ta méthode pour fixer dans la mémoire de Henrique le premier axiome du catéchisme républicain « Tous les hommes sont nés libres et égaux » Bah, une des sentimentales farces françaises de Tom Jefferson. Il est vraiment ridicule que de pareilles fadaises aient cours encore aujourd'hui parmi nous. Parfaitement ridicule, dit Sinclair d'un ton significatif. Attendu, poursuit Alfred, que nous pouvons assez voir qu'il n'est point vrai que tous les hommes naissent libres, point vrai que tous naissent égaux. C'est précisément le contraire. Pour ma part, il y a beau temps que moitié de cette phraséologie républicaine n'est pour moi que du fatras. Ce sont les gens bien élevés, intelligents, riches, raffinés, qui doivent avoir des droits égaux. Jamais la canaille. Pourvu que vous puissiez maintenir la canaille dans cette opinion, répliqua Augustin. Elle a pris une fois sa revanche en France. Certes, cette race doit être assujettie avec fermeté, avec constance, comprimée comme je la comprimerai. » Et Alfred pesa sur le sol comme s'il eût foulé quelqu'un au pied. « La glissade comptera si l'opprimé se relève, » dit Augustin. « À Saint-Domingue, par exemple. »« Bah, nous y aurons l'œil dans ce pays-ci. Nous devrions rompre en visière à tous ces phraseurs, à ces promoteurs d'éducation qui prennent trop leurs ébats. La basse classe ne doit jamais être instruite.
C'est pas sécure, reprit Augustin. Elle le sera. Il s'agit de savoir comment, voilà tout. Notre système est de la former à la brutalité et à la barbarie. Nous brisons tous les liens de l'humanité pour faire de ces hommes des bêtes brutes. S'ils gagnent le dessus, eh bien, nous les trouverons ce que nous les avons fait.
Jamais ils ne le gagneront, le dessus.
Fort bien. Poussez la vapeur, fermez solidement la soupape de sûreté, asseyez-vous dessus et voyez où vous prendrez terre.
Soit, nous verrons. Je n'ai pas peur de m'asseoir sur la soupape tant que la chaudière est solide et que les rouages marchent bien.
Les nobles sous Louis XVI pensaient comme toi. L'Autriche et Pie IX sont de nos jours du même avis. Mais par quelque beau matin, vous courez risque de vous rencontrer au haut désert quand la chaudière éclatera.
Dies déclarabit, s'écria Alfred en riant.
Je te le répète, reprit Augustin, s'il est de nos jours une éclatante vérité qui vienne aux yeux comme une manifestation divine, c'est que le jour des masses arrivera. Ce jour où les derniers seront les premiers.
Bravo! Une des bouffonneries de vos républicains rouges, Augustin. Pourquoi ne pas t'enrôler dans les énergumènes, les orateurs des déchiffrements et discourir grimper sur une souche?
Prêche, prédis, mon cher. J'espère que je serai mort avant qu'advienne pour nous ce grand millénium de tes masses crottées.
Crottées ou non, reprit Augustin, leur temps venu, elles vous gouverneront et vous aurez les maîtres que vous vous serez faits. La noblesse française voulut avoir un peuple de sans-culottes. Elle n'en a eu que trop des gouvernants sans-culottes. Le peuple d'Haïti...
Pour le coup, assez, Augustin. Comme si nous n'en avions pas eu par-dessus les yeux et les oreilles de cet abominable Haïti. Les maîtres d'Haïti n'étaient pas anglo-saxons. S'ils l'eussent été, nous aurions toute une autre histoire. La race anglo-saxonne est la reine du monde et le sera toujours.
À la bonne heure. Mais il y a une assez jolie infusion de sang anglo-saxon chez nos esclaves, ce me semble, dit Augustin. Nombre d'entre eux n'ont gardé du sang africain que ce qu'il en faut pour ajouter l'effervescente chaleur des tropiques à notre fermeté, à notre prévoyance calculatrice. Que l'heure de Saint-Domingue vienne à sonner, et le sang anglo-saxon aura le pas et l'honneur de la journée. Des fils de pères blancs, dont nos sentiments orgueilleux échauffent les veines, ne seront pas toujours vendus, achetés. On ne trafiquera pas éternellement de cette denrée humaine. Ils surgiront un jour et élèveront avec eux la race de leur mère.
Fatras, sottise.
Juste le vieux dicton, poursuivit Augustin. Il en sera comme au jour de Noé. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Ils plantaient et ils bâtissaient, et ils pensèrent au déluge, que quand il survint et emporta tout.
Ma parole, Augustin, je te crois fait pour être prédicateur ambulant. Et Alfred se mit à rire.
Rassure-toi, va, possession vaut titre. Nous tenons le pouvoir et nous le tenons bien. La race sujette, il frappa du pied la terre, restera sujette. Nous avons assez d'énergie pour ménager notre poudre.
Des garçons élevés comme Henrique font de fameux gardiens pour vos poudrières, dit Augustin.
6 froids, 6 mètres 2. Le proverbe le dit. Celui qui ne peut se gouverner lui-même ne peut gouverner autrui.
Il y a là quelque chose qui cloche, c'est vrai, dit Alfred en réfléchissant. Je ne puis nier que les enfants ne soient difficiles à élever sous notre régime. Ils lâchent la bride aux passions, déjà trop exaltées par la chaleur du climat.
Henrique me donne du souci. L'enfant est généreux, franc, le cœur chaud. Mais un vrai brûlot dès qu'on l'excite. Pour venir à bout de lui, il me faudra, je crois, l'envoyer dans le Nord, où l'obéissance est plus de mise et où il vivra davantage avec ses égaux, moins avec ses subordonnés.
S'il est vrai que l'éducation des enfants soit la grande affaire de la race humaine, reprit Augustin, C'est chose à noter qu'en cela notre régime fonctionne si mal. Mal en quelques points, bien sûr d'autres. Il rend nos garçons fermes, courageux. Les vices même d'une race abjecte tendent à fortifier en eux les vertus contraires. Henrique, je le parierai, apprécie d'autant mieux la vérité et la trouve d'autant plus belle qu'il a vu le mensonge, la fourberie, être un des sceaux indélébiles de l'esclavage. C'est assurément un aperçu fort chrétien du sujet. Chrétien ou non, il est juste, et pas plus antichrétien, au fond, que la plupart des choses de ce monde. C'est ce que je ne prétends pas nier, ajouta Sinclair. Allons, n'est-ce pas assez tourné dans le même cercle, comme nous l'avons déjà fait 500 fois, plus ou moins? Que dirais-tu d'une partie de tric-trac? Les deux frères montèrent les marches de la véranda, et bientôt, assis devant un léger support de bambou, ne furent plus séparés que par le tric-trac. Je te dirai, Augustin, reprit Alfred tout en rangeant ses dames, que si je partageais tes opinions, je ne me croiserais pas les bras, je ferais quelque chose. J'en suis convaincu, tu es homme d'action. Mais quoi? Eh bien, que ne donnes-tu de l'éducation à tes esclaves? Fais-en des modèles, des façons de spécimens. Et un sourire dédaigneux se joua sur les lèvres d'Alfred. Tu pourrais aussi bien leur rouler le mont Etna sur le dos et leur ordonner de se tenir debout que de me dire à moi d'élever mes serviteurs quand la masse de la société pèse sur eux. Un homme ne saurait s'opposer seul à l'influence d'une population entière. Pour amener des résultats, l'éducation doit partir de l'État même ou, tout au moins, d'un groupe assez nombreux pour établir un courant. « À toi de jeter les dés, » dit Alfred. Et les deux frères, absorbés dans leur partie, n'en furent tirés que lorsque le galop des chevaux se fit entendre. « Ah, voici les enfants !» s'écria Augustin, et il se leva. « Regarde donc, Alfred, n'as-tu jamais rien vu d'aussi beau ?» C'était en effet un spectacle radieux. Henrique, avec son front hardi, ses abondantes boucles lustrées, ses joues écarlates, riait gaiement, penché vers sa belle cousine comme ils arrivaient. Eva portait une amazone bleue de ciel, un chapeau de même nuance, et l'exercice, en colorant ses joues de leurs teintes les plus éclatantes, faisait ressortir l'admirable harmonie de sa peau blanche et transparente et de ses cheveux à reflets d'or. « Par le ciel, quelle éblouissante et parfaite beauté !» s'écria Alfred. « Je te le déclare, Augustin, elle blessera plus d'un cœur avant qu'il soit longtemps. » « Trop vrai, peut-être, hélas. Dieu sait si je le redoute, » murmura Sinclair avec une soudaine amertume. Et, s'élançant au bas des degrés, il courut enlever sa fille de dessus la selle. « Eva, chérie, n'es-tu pas trop fatiguée ? » demanda-t-il comme il l'emportait dans ses bras. « Non, papa, » dit l'enfant. Mais sa respiration courte et bruyante alarma son père. « Comment peux-tu galoper si fort quand tu sais que cela ne t'est pas bon ?»« J'étais si bien, papa, et je m'amusais tant que je n'ai songé à rien. » Sinclair la porta jusqu'au salon, où il la déposa sur un sofa. « Henrique, il faut prendre un peu plus garde à ta cousine, tu l'as menée trop vite. »« Je vais en avoir bien soin, » dit le jeune garçon, « confiez-la-moi. » Et, s'asseyant près du sofa, il prit la main de la petite fille. Bientôt, Eva se sentit mieux. Son père et son oncle retournèrent à leur partie, et les enfants furent laissés ensemble. « Si vous saviez, Eva, je suis si fâchée que papa ne demeure ici que 2 jours. Je vais être après cela si longtemps sans vous voir. Si je restais avec vous, je tâcherai d'être bon, de ne plus quereller Dodo ni personne. Ce n'est pas que j'ai la moindre envie de le maltraiter, non, vraiment. Je suis trop vif, voilà tout. D'ailleurs, je ne suis point mauvais pour lui. Je lui donne un picayoun par-ci, par-là. Vous voyez qu'il est bien vêtu. « Allez, tout compter, Dodo est un heureux garçon. »« Seriez-vous heureux, Henrique, s'il n'y avait pas une seule créature près de vous qui vous aimât ?
Moi ? Non, cela va sans dire.
Et vous avez enlevé Dodo à tous les amis qu'il avait jamais eus. Il ne voit plus maintenant une seule personne qu'il aime. Comment pourrait-il être bon ?
Eh bien, que voulez-vous que j'y fasse, cousine ? Je ne puis acheter sa mère, pas plus que me mettre à l'aimer, moi, ou personne autre que je sache.
Pourquoi pas vous ? Dit Eva.
Moi, aimer Dodo ? Eva, y songez-vous ? Je peux le trouver gentil et le protéger à la bonne heure. Mais vous, est-ce que vous aimez vos gens ?
Oui, vraiment, dit Eva.
Quelle drôle d'idée !
La Bible ne nous dit-elle pas de nous aimer les uns les autres ?
Oh, la Bible dit tant de choses, mais personne ne s'en inquiète. Vous le savez bien, Eva, qui est-ce qui songe à faire ce qu'il y a dans la Bible ?
Eva demeura muette quelques minutes. Ses yeux restèrent fixes et rêveurs.
« Quoi qu'il en soit, dit-elle enfin, cher cousin, aimez le pauvre Dodo et soyez bon avec lui, pour l'amour de moi.
J'aimerai qui que ce fût, quoi que ce soit, pour l'amour de vous, chère cousine. Et je pense du fond de l'âme que vous êtes bien la plus charmante, la plus gentille créature que j'ai jamais vue. »
Henrique parlait avec une ardeur qui empourpra son charmant visage. Eva accueillit ses paroles sans qu'il se fît le moindre changement sur sa calme et angélique figure, et elle répondit avec une parfaite simplicité
« Merci, cher cousin, de ce que vous me dites là. J'espère, je crois, que vous vous rappellerez ma prière. »
La cloche du dîner, en sonnant, mit fin au tête-à-tête.